10h, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Ken, bonjour Imam Abdelali.
Bonjour Philippe, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, toutes nos auditrices et auditeurs fidèles, tous les samedis, pour cette belle émission, l'islam au présent, pour parler un petit peu de religion, une fois par semaine.
Bien, Imam Abdelali, vous êtes un imam digital maintenant, l'imam 2.0, vous êtes même 3.0.
Hein, 3.0.
Allô l'imam.
Ah oui, effectivement, sur.
Vous savez,
c'est passé sur Facebook, sur YouTube maintenant.
Vous connaissez Allô l'imam
Oui, alors, oui. C'était sur Facebook, oui. cette petite chronique.
Animée par qui?
Par moi.
Ah ben sûr. Voilà, c'est parce que j'ai cru que vous n'étiez pas au courant.
Attends quand même, Philippe, c'est moi qui l'ai enregistré. On a passé des heures pendant le ramadan à l'enregistrer, donc c'est quand même le premier, je suis le premier concerné. Donc effectivement, ce sont des petites capsules qui durent quelques minutes, dans lesquelles je réponds à des questions d'auditeurs qui m'appellent sur mon téléphone après avoir fait l'annonce à la radio tous les soirs du ramadan. Comme tu le sais, Philippe. Et donc, effectivement, ces capsules ou ces chroniques de d'émissions qui sont sur Facebook viennent de maintenant de passer un cap puisqu'ils sont maintenant sur YouTube.
Bien. Voilà, vous pouvez donc, si vous suivez...
Ça s'appelle Allô l'imam.
Voilà, consultez quand vous voulez les capsules de l'imam. Chaque semaine, un verbe coranique. Et cette semaine, Imam Abdelali, il s'agit du verbe...
Hada, alors hada, ce qui signifie guider, orienter ou montrer le bon chemin. Donc je peux être moi quelqu'un qui guide une personne pour montrer son chemin, c'est-à-dire quelqu'un qui vient et me dit je voudrais aller à tel endroit. Donc ana ahdihi ila al-makan, je le guide vers tel endroit. Mais bien sûr, quand on parle de trouver sa voie spirituelle et d'être, on va dire, imprégné de la foi en Dieu, etc., eh bien, on dit que la hidaya, plutôt al-huda, ne vient que de Dieu.
D'accord, il n'y a pas de guide spirituel alors.
Dans
certaines confréries, donc, par exemple.
On dit qu'un homme peut être l'instrument de Dieu pour guider quelqu'un, mais il n'est pas celui qui guide. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ. On ne peut être guidé que seulement si Dieu veut bien nous guider. Donc le huda vient de Dieu. La hidaya vient de l'homme.
D'accord.
Donc la hidaya, c'est cette instrumentalisation de l'être humain pour montrer la voie à une personne qui a besoin de trouver son chemin et de se convertir et de découvrir l'islam, par exemple, pour devenir un musulman, ce qu'on appelle... Il pratique la da'wa, donc il la prédication, il prêche la bonne parole pour l'encourager à trouver son chemin et à trouver la voie de Dieu.
Alors, quel est son radical, Imam Abdelali?
Alors, il y en a deux, comme je disais. Il y a le mot huda,
oui,
et le mot hidayah.
D'accord.
Alors, la différence entre les deux... C'est que, comme le dit le Coran, Oulaika ala hudan min rabbihim. Ceux-là sont dans la huda, dans la guidance de leur Seigneur. Donc la guidance, ce huda ne vient que de Dieu. Quand on parle de huda, on parle de ce qui vient de Dieu. Par contre, la hidaya de al-ihtida, donc le verbe c'est ihtada, fahum muhtadun, eh bien, ce sont ceux qui ont fait l'effort ou qu'on trouvait un outil, ou plutôt un personnage, ou quelque chose qui leur a permis d'être guidé. Donc c'est l'intermédiaire entre Dieu et la personne guidée, qui est ce qu'on appelle celui qui est al-muhtadi, fahuwa muhtada, ou bien aussi, on l'appelle aussi al-mahdi. Tiens, le fameux prénom Mahdi,
oui,
qui est souvent très utilisé comme prénom chez les convertis aussi, tiens. Pour celui qui guide ou celui qui est guidé. Non, participe passé ou participe présent. Ism fa'al ou ism maf'ul, comme l'on dit. Nous avons aussi une autre expression qui est dérivée du verbe hada, c'est le verbe ahda. Ahda. Ahda en arabe signifie offrir, offrir un cadeau. Son radical, c'est non pas hidayah, mais hadiya. Attention. Donc c'est vrai que c'est compliqué.
C'est subtil, hein.
C'est subtil, ouais. C'est subtil. Mais pourquoi le mot. Hada vient du mot ahda, tout simplement parce que le meilleur cadeau que Dieu puisse offrir à quelqu'un, c'est la hidaya. C'est bien la hidaya. C'est bien d'être guidé. C'est la meilleure quelque chose que Dieu peut offrir à quelqu'un, c'est de lui montrer le droit chemin, de contribuer à son bonheur dans ce bas monde et sa félicité dans l'au-delà. Bien sûr.
Où est-ce qu'on retrouve, Imam Abdelali, ce verbe dans le Coran?
Alors déjà le mot huda, qui est le radical de hada, hein, on a dit que le mot huda c'était déjà un des noms du Coran. C'est un des noms du Coran. Dans le Coran, quand Dieu parle du Ramadan, il dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » le mois du Ramadan dans lequel a été révélé le Coran. Donc là, il parle du Coran. « Hudan linnas » donc une guidance pour les gens. « Wa bayyinatin min al-huda » et un éclaircissement de ce qu'est la guidance. « Wal furqan » et un discernement. Donc là, le mot « huda », c'est bien un des noms ou un des surnoms que Dieu a donné au Coran. Donc dans le Coran, bien sûr, il est cité exactement 137 fois entre verbes, dérivés du verbe « ihtada »,« muhtadoun »,« yahtadoun », etc. Tout ce qui est dérivé du mot « huda », puisque l'objet même, la finalité du Coran, c'est de donner aux gens le moyen de trouver leur voie, de trouver leur guidance et leur chemin pour aller au paradis. Donc le terme « hidayah », Huda, Ihtada, Hada, Fabihuda, Humiqtadi, etc. Eh bien, nous le trouvons maintes fois dans le Coran, par exemple dans la sourate Les Bestiaux, où Dieu dit dans le Coran, dans le verset 90, Ulaika alladhina hada Allah, Fabihuda, Humiqtadi. Voilà ceux qu'Allah a guidés, suis donc leur direction, c'est dans le chemin de ceux qui ont été guidés. Qul la as'alukum alayhi ajra. In huwa illa dhikrun lil alamin, ce n'est qu'un rappel à l'intention de tout l'univers. Mais aussi dans la sourate l'araignée, sourate l'Ankabout, dans le verset 69, Dieu dit dans le Coran, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons, certes, sur nos sentiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de ceux qui vont aller faire la guerre. Il s'agit de ceux qui font l'effort de chercher la voie et trouver leur chemin. Eh bien, ceux-là, Allah Azza wa Jal dit que nous les aiderons à trouver leur sentier, leur chemin pour se diriger et cheminer vers Allah Azza wa Jal. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Regarde, ça c'est encore la preuve qu'il ne s'agit pas de combattre ou de détruire. Il s'agit de ceux qui agissent noblement et accomplissent des actes de bienfaisance. Eh bien, ceux-là font l'objet d'une guidance d'Allah Azza wa Jal. Et dans la sourate la vache, bien sûr, puisque le non plus le verbe, mais le radical, Huda, eh bien, nous le retrouvons lui aussi des dizaines de fois dans le Coran. Et tout au début du Coran, par exemple, sourate la Fatiha, Dieu dans le Coran, il dit « Ihdina as-sirat » guide-nous sur le droit chemin. Le verbe « Ihdina » c'est « guide-nous ».« Ihdina as-sirat al-mustaqim » ou dans sourate al-Baqarah tout au début, il dit « Dhalika al-kitabu la raiba fihi » c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. « Hudan »« Hudan »« Hudan lil-muttaqin » Donc là encore, l'expression « Huda » que nous trouvons dès le début du Coran, puis après c'est des dizaines de fois tout au long du Coran. J'avais même mis la liste sur mon compte rendu, mais je n'ai pas voulu qu'on s'étale là-dessus. Un beau verset qui parle de Hidayah du Coran, en parlant du Coran, il dit que, par exemple, le Coran est une source de guérison pour les cœurs, une guidance et une miséricorde pour les croyants. Et souvent, il l'associe au mot Rahma, qui veut dire miséricorde. Donc, que le mot Huda et le mot Rahma sont souvent associés. On le retrouve 8 fois associé. Hudan wa rahmatan lil mu'minin. Hudan wa rahma lil ladina amanu, etc. Aux gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide, donc une Huda, et une miséricorde pour les croyants. La guidance étant la visée principale du Coran, il est cité donc 317 fois, soit en verbe, hada, conjugué, soit en radical et ses dérivés.
Bien, mais si Imam Abdelali c'est Allah qui guide, pourquoi nous reproche-t-il notre égarement?
Ah, très bonne question. Donc là qui relève du chapitre philosophique ou philologique de ce qu'on appelle la prédestinée, la foi au destin. Est-ce que Dieu prédestine à l'homme de telle manière qu'il lui impose un choix dans, ou ses choix dans la vie, ou est-ce que le libre arbitre reste quelque chose de inné chez l'homme? Eh bien, la réponse est la seconde, c'est-à-dire que l'homme, même si Dieu lui prédestine, c'est-à-dire qu'il est informé parce qu'il sait tout ce qui va se passer dans les cieux et dans la terre, dans le passé, dans le présent et dans le futur, il n'intervient pas dans le choix de l'homme. C'est l'homme qui choisit de se guider ou au contraire de s'égarer. On le retrouve, effectivement, on parle que de guidance de Dieu parce que Dieu aide à guider les gens quand eux font l'effort d'être guidés. Il dit dans le verset 7, sourate 7, verset 43, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ. Et ils diront, louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Donc, nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Hein, donc là, pour répondre à cela, à ce verset-là, il faut comprendre qu'Allah nous a guidés, montrés sur les deux voies, celle de, à suivre et l'autre à éviter. Donc guider, ça ne veut pas dire qu'il te pousse vers la bonne voie. Il te la montre. Guider, ça veut dire te la montrer. Hein? Dieu dans le Coran dit وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Ça veut dire nous l'avons guidé dans les deux voies. C'est-à-dire que nous lui avons donné les moyens de suivre le chemin qu'il veut. Soit d'être un bienfaiteur, soit d'être un malfaiteur. Soit d'être un croyant, soit d'être un incroyant. Soit d'être un pervers, soit d'être au contraire un homme bon et généreux. La hidayah de Dieu, ça n'est pas où Dieu t'oblige et t'impose d'aller vers le bon ou le mauvais chemin. C'est simplement le fait que Dieu te montre qu'il existe un bon chemin et qu'il existe un mauvais chemin. À toi de faire ton choix, sachant que l'aboutissement du bon chemin, c'est la récompense divine, et qu'au contraire, choisir le mauvais chemin, c'est subir les châtiments et la punition divine. Donc, il est très important de faire l'effort, de faire ce premier pas pour qu'Allah Azzawajal ensuite nous aide à faire le bon choix. Dieu dans le Coran dit « وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا » c'est-à-dire ceux qui ont fait l'effort d'être guidés « زَادَهُمْ هُدًا » nous augmenterons leur guidance, leur rectitude, leur droit chemin. « وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ » et il leur accordera leur piété. Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus et leur inspira leur piété. Et qu'il est maître de son choix, qu'il prendra. Donc nous restons donc maîtres de notre volonté, et notamment de réagir face au rappel de Dieu. C'est pour cela que Dieu reprend pour nous mettre en garde de notre réaction, la réaction que l'on va avoir quand on est concerné par un rappel de Dieu. C'est-à-dire que dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, dans plusieurs versets, il dévoile la réaction de ceux qui choisissent d'être guidés et ceux qui choisissent de ne pas être guidés quand ils entendent un rappel. Par exemple, dans le Coran, il dit wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allahu bihadha mathala. Ceux qui ont été mécréants, qui ont été infidèles, ils diront mais qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire à travers cet exemple? C'est-à-dire qu'en gros, ça nous intéresse pas, ce rappel est futile et ne nous touche pas. Alors que les croyants, eux, quand ils entendront le rappel de Dieu, eh bien, qu'est-ce que dit Dieu concernant? Il fait témoin, donc il reprend justement l'état d'esprit de ces croyants qui ont répondu au rappel de Dieu. Il dit dans la sourate, verset 124. Sourate 9. Donc sourate 9.
Sourate Taouba.
Voilà, c'est sourate le repentir, verset 124, il dit et quand une sourate est révélée, il en est parmi eux qui dit quel est celui d'entre vous dont elle fait croître la foi. C'est-à-dire ce verset-là, elle se rappelle quel est parmi vous ceux qui ce verset-là permet de croître, d'augmenter leur foi. Eh bien, quant aux croyants, elle fait certes croître leur foi et ils s'en réjouissent. Voilà ce que Dieu fait témoignage dans la sourate 9, verset 124.
Une fois n'est pas coutume, Imam Abdelali, ce n'est pas un personnage que vous nous présenterez dans un instant, mais
un couple, Inch'Allah, un couple, pas n'importe lequel. C'est un couple qui a provoqué la honte de Dieu, c'est-à-dire qui a fait dire à Dieu « j'ai honte de ce couple-là ».
N'en dites pas plus, voilà, on écoute dans un instant.
Heures, 11h, l'islam au présent sur Beurre FM. L'islam au présent avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
C'est l'islam au présent. Chaque semaine, Imam Abdelali, vous nous racontez l'histoire d'un personnage et vous nous disiez tout à l'heure qu'aujourd'hui c'est un couple que vous allez nous présenter, mais pas n'importe quel couple.
Alors c'est un couple qui vivait à l'époque du prophète Moïse, donc au Sayyidina Moussa alayhi salam. Ce couple-là était un couple donc qui avait une petite demeure, on va dire assez modeste, mais qui en plus vivait dans la pauvreté absolue. Mais tellement ils étaient pauvres qu'ils en souffraient tous les jours. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas de quoi se nourrir. C'était extrêmement laborieux et difficile pour eux de trouver à manger tous les jours. Donc, à un moment donné, alors qu'un soir, ils étaient ensemble en train de dormir dans leur couche, l'épouse dit à son mari, mais puisque nous sommes des croyants en Moïse, pourquoi n'allons-nous pas voir le prophète Moïse pour lui demander de parler à Dieu, parce qu'il est le Kalim Allah, celui qui a parlé à Dieu, pour qu'il puisse résoudre notre situation dans laquelle nous sommes. Et le mari a dit, c'est vrai, c'est une bonne idée, tiens, je vais aller demain le voir, et puis j'en passerai un mot. Et donc, cet homme-là, le mari, va voir Sayyidina Moussa, il lui dit, « Oh Moïse, voilà, nous sommes dans un état extrêmement dégradé, dans une situation de nécessiteux, peux-tu demander à Dieu, puisque toi tu lui parles quotidiennement, qu'il améliore notre situation matérielle, donc que l'on puisse être un petit peu, qu'on puisse avoir les moyens de subvenir à nos besoins, c'est-à-dire avoir un petit peu de richesse pour ne pas continuer à mendier ou de souffrir de la pauvreté. » Effectivement, Sayyidina Moussa va rencontrer son Seigneur et lui expose le problème de ce couple-là. Mais Dieu lui dit, je t'informe que j'accepte ta requête, mais pour une durée d'un an seulement. Pendant un an, je vais les enrichir et après un an, ils vont redevenir pauvres. Ah, voilà. Donc Sayyidina Moussa prend l'info et revient chez ce couple-là pour leur informer que Dieu, voilà ce qu'il a décidé, que vous allez être riches, mais seulement pendant un an. Donc le couple accepte, il n'a pas d'autre choix que d'accepter. Et donc effectivement, au bout d'un certain temps, il commence à s'enrichir. Les biens de Dieu commencent à venir de partout, et des causes à effet qui font qu'ils deviennent très riches, des commerçants, puis ensuite ils deviennent véritablement le couple le plus riche de la ville. À tel point qu'ils avaient tellement d'argent qu'ils donnaient à tout bout. Et puis ils ont pensé, quand la date butoir arriva, ils se sont dit, puisque nous allons redevenir pauvres, autant trouver une idée qui va nous permettre de quand même vivre après, de continuer à vivre. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Ils disent, écoute, ma femme, donc c'est le mari qui a proposé, on va construire une forme de maison d'hôte pour les nécessiteux et pour les voyageurs, dans un carrefour en plein milieu du désert, ou un passage des voyageurs, où se rencontrent sept chemins. Donc sept chemins qui rejoignent un carrefour. Mmh. C'est un carrefour.
Donc là, c'est parfait.
Voilà, c'est parfait. Donc, ouais. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils construisent une maison à cet endroit-là, et comme ils avaient beaucoup d'argent, eh bien, ils commencent à distribuer et à offrir le plat, la nourriture et le gîte à tous les voyageurs qui passaient par ces sept chemins-là. Et ils avaient pour cela ouvert sept portes. Pour chaque porte, il y avait un chemin qui donnait sur un chemin, et chaque voyageur qui venait, eh bien, il trouvait cette porte ouverte et il trouvait le gîte et le, comment on dit ?
Le gîte et le couvert.
Et le couvert, voilà, c'est le couvert que je cherchais, je trouvais pas, tu vois. Donc ils mangeaient à leur faim et buvaient à leur faim et puis continuaient leur chemin.
Gratos.
Gratuit, inshallah. C'était une sadaqa. Et ils se sont dit quoi ? Ils se sont dit, voilà, peut-être que les gens, ils vont, après, quand on va redevenir pauvres, parce qu'ils savaient qu'ils allaient redevenir pauvres, eh bien, ils vont peut-être penser à nous.
Ils se souviendront.
Ouais. Ils se souviendront des bienfaits qu'on a fait pour eux. Et ils nous donneront un petit peu, peut-être, à manger. Et donc, le temps passa, et au bout d'une année, eh bien, rien ne se passa. Ils continuèrent à être riches. Ils n'ont pas perdu leur richesse. Ils ont continué à être riches et à continuer à donner aux pauvres par le biais de ces sept portes qui donnaient à ce gîte ou qui accueillaient les voyageurs, les nécessiteux, les vagabonds, etc., qui passaient par là. Et à ce moment-là, bien sûr, Moïse, qui se rappelait de la promesse de Dieu, partit voir son Seigneur et dit « Mais Dieu, tu avais promis qu'au bout d'un an, ils redeviendraient pauvres. » Et là, ça n'est pas le cas. Ils sont restés riches. Qu'en est-il de ce couple-là ? Qu'as-tu fait ? Il a dit, ô Moïse, j'ai ouvert une porte de ma générosité. J'ai ouvert une porte de ma générosité. Eux, ils en ont ouvert sept portes. J'ai honte, ô Moussa. J'ai honte aujourd'hui de les remettre dans la pauvreté. Parce que eux, ils ont ouvert sept portes alors que moi, je ne leur avais ouvert qu'une seule porte. Voilà la leçon que nous avons à travers cette histoire de ce couple qui a fait l'objet d'une honte, c'est-à-dire istahya. Il y en a comme on dit en arabe, ouais. Istahya Allah. Il a eu la la pudeur, la honte de dire voilà, je n'ose pas les priver de cette générosité et je ne veux pas refermer cette porte alors que eux ils en ont ouvert sept.
C'est, voilà. Pas, c'est pas facile hein, d'enchaîner derrière l'imam. Vous ne me facilitez pas la tâche, imam.
Je pense que la transition avec l'association Umma Islamia qui fait des maraudes et qui offre aux pauvres tous les jours et qui ouvre les portes de la générosité.
Je fais mon boulot.
Voilà.
Heureusement que vous êtes là, imam Adelali, parce que vous enchaînez, vous au moins. Mohamed Zenati est avec nous. Bienvenue, Mohamed.
Merci, bonjour.
Voilà, l'imam a commencé à vous présenter. Vous êtes le président de cette association Umma Islamia. C'est vrai qu'alors, il y a des moments où on parle beaucoup de générosité, puis il y a des moments dans l'année où finalement on a l'impression qu'il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus rien et on ne parle plus du tout de générosité. Et on se rend compte que les gens qui sont dans la rue, ils ont besoin toute l'année finalement.
Exactement, c'est pas facile.
Hein, surtout en ce moment.
Il fait froid. En ce moment avec le temps, avec... Ah, c'est vraiment.
Il y a des cycles hein, pour parler de l'association, pour parler de générosité. C'est vrai que pendant le Ramadan, on en parle tout le temps. Avant les fêtes, on en parle beaucoup. Puis après, en début d'année, on a l'impression qu'il y a des soldes, tout ça. Donc les gens, ils ont autre chose à faire.
Ben ouais, mais sauf que eux, les pauvres, ils continuent à vivre. Ils ont toujours besoin de l'aide de ceux qui ont une situation aisée et qui cherchent même à s'acquitter de la zakat, de sadaqat, et qui ne trouvent même pas des pauvres, qui ne savent même pas.
Qui disent qu'ils n'en trouvent pas.
Voilà, voilà. En tout cas, moi, on m'appelle pour ça. Il y a même des gens qui m'interpellent, me disent, mais à qui vais-je donner la zakat? À qui je vais donner les intérêts que je voudrais me débarrasser parce que Dieu m'interdit de consommer les intérêts bancaires, ou des sadaqats, etc. Ou faire une sadaqa pour une personne décédée, des sadaqats jariya, etc. Ils ne savent pas à qui donner. Et donc, je pense que notre émission L'Islam au présent a un rôle important pour orienter ces gens qui ont envie de faire des actes de générosité. Et justement, l'histoire là nous encourage à le faire. Et donc, notamment à offrir, à faire des dons à ces associations qui vont
à ouvrir les sept portes en fait.
Vous à ouvrir plusieurs portes.
Vous nous présentez un petit peu votre action, Mohamed.
Donc,
l'action de votre association.
Donc, ce sont des maraudeurs.
Ouais, voilà, c'est ça. On fait
des maraudeurs. Mohamed, Imam Abdelali.
Mohamed, ouais, c'est ça.
Non, mais vous appelez Mohamed?
Non.
Bon, bah
pardon.
D'accord, merci.
Tant pour moi.
Donc, nous, on fait des maraudes donc, sur Paris, donc, dans le 18e et ses alentours, ainsi que Gare de Lyon, enfin, à peu près tout Paris.
C'est-à-dire que vous vous déplacez dans une soirée, vous n'êtes pas à un point fixe où on vient vous rejoindre.
Bon, en fait, nous, on a deux types de distribution.
Ouais.
On a une distribution fixe et une distribution mobile. Donc voilà, donc c'est le fixe, c'est avec une table, c'est vraiment avec des grosses marmites, avec des bouteilles d'eau. C'est vraiment comme un self. Et après, il y a des maraudes mobiles, donc c'est avec des sachets. Donc on met des barquettes, on met...
Dans l'arrière d'une voiture.
Ouais, voilà, c'est ça. Et on met une bouteille d'eau. Il faut qu'il y ait un repas complet. Voilà, on part pas tant qu'il y a pas...
Un colis, un petit colis.
Voilà, un petit colis, il faut qu'il y ait un repas complet. Et donc voilà, après on fait tout ce qui est gare de Lyon.
Donc tous les SDF,
exactement,
les réfugiés, SDF, les migrants, les migrants syriens, etc.
Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est...
Machallah.
On fait chaque semaine, toute l'année. Donc ça fait déjà à peu près un an déjà on fait ces actions-là.
Donc votre association, elle n'est pas islamique et religieuse comme le nom l'indique son nom, Islamia.
Non.
C'est vraiment
Islamia quand même.
C'est la valeur islamique qui est derrière, qui est mise en valeur. Et c'est pour être généreux.
C'est pas la Umma.
Voilà, c'est pas que pour la Umma, c'est pour tous les nécessiteux, qu'ils soient croyants ou non croyants.
Voilà,
à partir du moment où le gars est dans la misère, il a droit à la générosité de l'association.
On distribue pour tout le monde, et même dans mon équipe. Donc il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des athées, des musulmans. Donc on est vraiment mélangé de dans l'équipe. On est
d'accord,
vraiment,
les bénévoles, ils viennent de partout.
De partout, c'est ça. Donc avec les réseaux sociaux.
Faites quoi dans la vie, vous, Mohamed?
Moi, je suis pâtissier.
D'accord, vous faites de la pâtisserie?
Moi, c'est ça.
J'ai bien compris, mais pour les distributions.
Pour les distributions,
est-ce que vous faites des gâteaux pour les distributions?
Non, il faut vraiment avoir du temps pour faire ça, mais...
C'est combien de repas que vous distribuez tous les...
Bon, on distribue entre 200 et 1000 personnes.
Ah oui, et 1000 repas.
Voilà ça.
1000 repas.
D'accord, voilà, c'est vraiment 1000 repas. Qui fait la tambouille chez vous?
Comment?
Qui c'est qui fait la tambouille chez vous?
La cuisine.
La cuisine, soit c'est moi, soit c'est des bénévoles.
Alors,
donc
voilà,
ça change.
Et qu'est-ce que vous cuisinez?
Moi-même, je suis bénévole, donc.
Ouais. Et qu'est-ce que vous cuisinez, Mohamed?
Bon, on cuisine de tout, du blé avec de la viande, parce que aussi on est en partenariat avec Allo Mouton. Donc, Ah oui, de tout. Hein, donc,
alors, allô mouton, pour savoir, il s'agit d'une...
Téléphone aux moutons qui viennent.
Non. Ce non. sont ceux qui ne veulent pas avoir à se casser la tête, à égorger un mouton pour faire une aqiqa, etc. Voilà. Donc, ils parlent par téléphone, ils confient la mission
voilà, ou sur Internet,
de faire égorger le mouton au nom de l'enfant, par exemple si c'est une aqiqa ou pour quoi que ce soit. Faire une sadaqa. Et aussi, ils s'assurent la redistribution de cette viande pour les nécessiteux en utilisant ce genre d'association de maraudeurs qui récupère la viande qui la cuit qui la met dans des colis de nourriture et il la redistribue aux nécessiteux dans Paris. Voilà, donc c'est très bien organisé,
c'est assez carré, c'est en plus on est suivi aussi, donc c'est-à-dire même le donateur il est informé que comme quoi son mouton il est bien cuisiné, il va être distribué à telle heure. Donc on le renvoie par mail ou par téléphone.
Il y a même un suivi.
Il y a un suivi et même le mouton nous suit aussi. Et ils peuvent venir sur le terrain
vérifier.
Pour venir voir si on distribue bien la viande.
Donc, on parlait, l'imam Abdelali parlait tout à l'heure des gens que vous servez sur le terrain dans vos maraudes. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de familles?
Il y a pas mal de familles. Il y a même
parce
des.
On nous a dit, qu'il n'y en avait plus.
Si, il y en a.
Il y a des familles, elles étaient toutes hébergées.
Non, il y a.
C'est quoi la réalité, Mohamed?
Franchement, il y a encore des familles. Il y a encore même des nourrissons. Il y a même des nourrissons. Donc, des fois, on se met à appeler même le 115. On essaie de faire le nécessaire.
Pour l'hébergement. Pour
voilà. L'hébergement. Ah, mais moi, j'en vois, Philippe, les gens qui sont dans les feux rouges, au niveau des feux rouges, on va dire, qui font la manche. Notamment des familles syriennes, il y en a encore beaucoup. Hein.
Oui, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Il y a surtout les demandeurs d'asile, il y en a beaucoup. Hein. C'est vraiment compliqué, surtout quand on a des situations où, par exemple, même qu'on sait qu'une assos est partie à tel endroit et retrouve un bébé de 6 mois, donc c'est assez compliqué.
Alors, on va donner les coordonnées de votre association, parce que ça, c'est le nerf de la guerre, comme on dit, c'est que les gens puissent vous donner. On peut vous donner de l'argent, on peut vous donner des moutons, on peut vous donner de la nourriture, comment
on
ça se passe?
On peut tout nous donner, on récupère tout.
D'accord.
Donc nous, on privilégie les denrées alimentaires, tout ce qui est pâtes, lentilles, moi je fonctionne comme ça. Donc,
et vous avez un local pour entreposer tout ça?
Donc voilà, on a une association avec qui on travaille, donc...
C'est Amatoula.
Voilà, c'est oui, Amatoula.
On les connaît, nous.
Donc on connaît.
Déjà venu.
Voilà, qui était au cimetière du Père-Lachaise.
Oui. Exactement.
Essentiellement.
Voilà, voilà, donc eux aussi font chaque semaine. Ouais. Donc ils nous prêtent leur cuisine.
Génial, ça.
Donc voilà, pendant toute l'année. Donc c'est pour ça que, vu qu'on n'avait pas de local, donc ils nous ont proposé pour le moment de.
Donc en tout cas, Amatoula ou l'association Oumma Islamia qui donc récolte toutes ces denrées alimentaires, c'est la même chose.
Puisque c'est la même chose.
Ce sont des maraudeurs qui redistribuent tous ces plats et ces colis aux nécessiteux.
Exactement. Alors vous avez un site internet?
C'est en cours.
Bon,
voilà,
d'accord.
C'est en cours.
Vous avez un numéro de téléphone?
On a un numéro de téléphone, un mail.
Alors donnez-le, votre numéro de téléphone, parce que sinon, vous savez, les gens, ils ont besoin d'un...
D'accord.
Alors donnez votre numéro de téléphone.
C'est 07 68 19 23 70.
Là, j'ai pas pu le temps de retenir tout ça là. 07
68 19 23 70.
23 70.
Bon, Mohamed, voilà. Vous restez avec nous. Hein. On redonnera pour ceux qui nous écoutent vos coordonnées tout à l'heure, un peu avant la fin de l'émission. Vos questions à l'imam Abdelali dans un instant.
Heures, 11h, l'islam au présent sur Beurre FM. L'islam au présent avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
C'est l'islam au présent le samedi 10h, 11h avec l'imam Abdelali Mamoun. Vos questions à l'imam Abdelali. Avec une question qui nous est arrivée à l'imam Abdelali d'une auditrice qui commence à travailler, nous dit-elle, à 14h30. Ses horaires, c'est 14h30, 21h, imam Abdelali, et qui demande comment gérer ses prières.
Eh bien, effectivement, les journées étant courtes et les prières rapprochées les unes aux autres, il existe une dérogation, notamment qui est rapportée dans l'authentique de Muslim, où le prophète a regroupé les prières de jour ensemble et les prières de la nuit ensemble. C'est-à-dire que il nous est possible, dans cas de nécessité, notamment le travail, de regrouper Dhuhr avec l'Asr, directement en faisant 4 unités pour Dhuhr. Tout de suite après, on enchaîne 4 unités pour l'Asr. Et le soir, en rentrant à la maison, tranquillement, à 21h, elle prie Al-Maghreb ses 3 unités, et ensuite l'Aïcha dans la foulée, 4 unités, plus Shfa'a Al-Outr si elle veut accomplir en plus les prières surérogatoires. Donc là-dessus, alhamdoulilah, nous avons des facilités, des souplesses venant de notre créateur Allah Azza wa Jalla.
Ouais, ça marche quand on travaille, le week-end c'est...
Ah oui, non, bien sûr.
On est d'accord.
Là, comme oui, le dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran...
C'est une facilité qui est liée à...
Tout à fait. Dans le Coran, il est clair. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est une prescription qui doit être accomplie à une heure prescrite, nous dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran. Donc chaque prière doit être respectée à l'heure, il doit être accompli à l'heure. C'est très important. Faire la prière avant l'heure, eh bien, ça n'est pas valable. À part ces prières de jour où l'asr peut être avancé à l'heure de dhor. Mais en dehors, par exemple, si tu m'avais dit, non, moi je commence à 11h, je voudrais faire dhor et l'asr à 11h, c'est pas possible. Là, je dis stop, on peut pas. Il faut que ça soit au moins dans la plage horaire de dhor et de l'asr. Et pour ce qui est de le maghreb et l'isha, on peut pas faire le maghreb et l'isha le jour, avant le coucher du soleil. Il faut au moins que ça se fasse après le coucher du soleil. Donc, mishurut sahat as-salat, une des conditions de validité de la prière, c'est de khulul waqt, que l'heure de la prière soit entrée. Soit nous intégrer la plage horaire des deux prières sœurs de la journée que sont dhor et l'asr, et les deux prières sœurs du soir que sont al-maghreb et l'isha.
Imam Abdelali, alors c'est un auditeur qui nous dit qu'il aimerait accomplir le pèlerinage pour sa mère décédée. Est-ce que c'est possible? Et si oui, quelles sont les conditions?
Alors oui, effectivement, le prof, il y a un homme qui est venu voir le prophète et dit « Ya Rasulallah, ma mère est décédée sans avoir accompli le hajj ou la umra. Est-ce que je peux le faire à sa place ?» Le prophète lui a répondu oui. Alors bien sûr, dans d'autres hadiths, il nous explicite les conditions. Il y en a deux. Il faut que la personne ne puisse jamais pouvoir le faire pour elle-même, c'est-à-dire que la personne soit décédée ou dans une maladie incurable qui va l'empêcher à vie d'aller faire le hajj. Et secondo, que la personne qui va faire le hajj, qui est déléguée pour le faire, l'ait déjà fait pour lui-même. On peut pas l'avoir fait, on peut pas le faire pour une autre personne alors qu'on ne l'a jamais fait pour soi-même. Il faut d'abord le faire une première fois pour soi-même. Ensuite, on peut le faire pour une tierce personne. Je signale moi que j'organise effectivement ce genre d'initiative. Donc ceux qui le souhaitent, inshallah ta'ala, ils peuvent m'appeler pour qu'on puisse organiser ça. Des étudiants de Médine se font le plaisir de nous accompagner pour faire la Umrah et d'être là pour qu'on s'assure que la Umrah a bien été accomplie. Donc ceux qui le souhaitent peuvent m'appeler au 06 29 25 3500, hein, c'est le même numéro que l'on donne pour les questions. 06 29 25 3500.
Mais c'est valable pour le grand et le petit pèlerinage?
Oui, tout à fait. On ne peut pas faire une umrah pour une autre personne si on ne l'a pas fait d'abord une première fois pour soi. Le hajj, pareil. Donc la umrah et le hajj, c'est les mêmes conditions.
D'accord.
Il faut l'avoir fait au moins une fois d'abord pour soi-même.
Est-ce qu'il y a des conditions de lien de parenté, voilà, ou pas du tout, ou n'importe qui peut effectuer un pèlerinage pour quelqu'un d'autre?
Tout à fait.
Même s'il le connaît pas, je veux dire.
Tout à fait. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait ce lien de parenté. N'importe qui peut le faire pour une autre personne, mais de confession musulmane. Je vais pas faire un hajj et umrah pour un non-croyant, bien sûr. Ouais. Il faut que ce soit quelqu'un de confession musulmane. Et idéalement, c'est de l'informer. C'est-à-dire que, sauf si elle est décédée, mais si elle n'est pas décédée, bah, de lui dire, voilà, je vais faire une umrah pour toi, sachant que cette personne-là ne pourra jamais la faire.
Et comment se manifeste l'intention, quand on commence le pèlerinage, de dire qu'on veut faire l'intention pour quelqu'un d'autre?
Simplement en ajoutant le nom de la personne dans la formule de l'intention que l'on fait au début quand on est en état de sacralisation et qu'on est à ce qu'on appelle à la frontière, qu'on appelle en arabe le miqat, on dit « Labbaïk Allahumma umratan an fulan ». Labbaïk Allahumma umratan, une umrah pour un tel ou pour une telle. Et il cite le nom. Par exemple, quelqu'un il va le faire pour sa mère, il dit labbaik allahumma amratan an ummi ou an walidati, tout ce qui fait allusion à la personne concernée. Et si par exemple, c'est pas assez précis, eh bien il rajoute le prénom. Si c'est pas encore précis, il rajoute le prénom de son père. Fulana bint fulan ou wild fulan. Hein, d'accord, fils d'un tel. Donc quand ça manque de précision. Effectivement, et puis ensuite il prononce la talbiya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak, ce qu'il va répéter jusqu'à la vision de la Kaaba. Hein, quand il voit la Kaaba, il arrête cette formule, labbaik Allahumma labbaik, la fameuse formule qui est chantée par tous les pèlerins quand ils partent à la Mecque, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, c'est joli hein. Inna alhamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak labbaik, et puis ils répètent comme ça tout au long du trajet, les hommes et les femmes, c'est magnifique, une ambiance merveilleuse et spirituelle et extraordinaire. Donc en tout cas, ceux qui le souhaitent vivre ce moment intense, je les invite à m'appeler. Moi je pars inchallah le 19 mars inchallah, 19 février, excusez-moi, 19 février jusqu'au 3 mars, je suis inchallah à Médine et à Mecca inchallah pour
une
belle omra qui inchallah j'espère se passera bien.
Il reste encore quelques places.
Tout à fait.
Donc rappelez le numéro Imam Abdelali.
06 29 25 35 00. 06 29 25 35 00.
Alors, un auditeur nous envoie cette question, son épouse a perdu son bébé de 8 semaines. Qu'est-ce qu'on doit faire de l'embryon du fœtus, nous dit-il?
Oui, alors ça dépend. Est-ce qu'on... En tout cas, ça n'a pas d'importance. Est-ce qu'on l'appelle embryon, on l'appelle fœtus? Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'âge de, ce fœtus. S'il a plus de 4 mois, l'enfant, s'il a 4 mois, pas 4 semaines, hein, 4 mois. S'il a plus de 4 mois, il a une âme. Donc c'est un être humain. Donc à partir de ce moment-là, eh bien, on doit l'enterrer. Alors, il n'est pas nécessaire de faire la prière mortuaire sur lui, ni des funérailles islamiques, c'est-à-dire le lavage et tout ça, il n'y a pas besoin. Puisque d'abord, à 4 mois, le bébé, il est tout petit, hein, il fait peut-être 2-3 centimètres, hein, c'est tout petit. 4 mois, c'est... Bon, quand même, hein, il ressemble à un être humain, sauf qu'il est, il est minuscule. Par contre, moins de 4 mois, il n'a pas encore d'âme. Donc, c'est qu'un morceau de chair qui pousse dans le corps de la maman. Et donc, à partir du moment où s'il y a une, ce qu'on appelle une fausse couche, à ce moment-là, eh bien, le bébé, on peut laisser faire l'administration de l'hôpital, en faire ce qu'ils veulent. En général, tout est brûlé parce que à cet âge-là, ça ressemble plus qu'à un morceau de, un caillot de chair. Un caillot de sang. Donc ça ressemble à rien du tout. Tout ça s'est mis dans les déchets hospitaliers et c'est brûlé. Non, mais c'est important, Philippe, parce que il dit, voilà, moi j'ai un bébé qui vient de sortir de mon ventre, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Et donc, je sais que ça te met mal à l'aise, Philippe.
Ah bah non, bah,
mais les gens ont besoin de savoir. Tu
veux, je sais que ce sont des choses qui arrivent, mais vous êtes venu vous donner toujours trop de détails.
Mais justement, c'est ces détails-là qu'on les gens... Il y a le bébé, il est là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quand il a moins de 4 mois, on laisse l'administration décider de son incinération.
C'est ça qu'il faut comprendre, c'est plus ou moins de 4 mois, ça c'est le délai.
Il est incinéré, brûlé, avec tous les déchets hospitaliers. Et notamment les déchets dangereux où il peut y avoir une contamination si quelqu'un tombe sur je sais pas moi si on met ça dans des les éboueurs il y a des aiguilles etc qui peuvent contaminer les gens. Donc là effectivement c'est ce qu'on appelle des déchets spéciaux hospitaliers qui sont incinérés à part. Voilà.
Imam Abdelali, tiens, question qui concerne le jeûne du mois de Ramadan, et donc une auditrice qui a des jours à rattraper et qui vous demande, et vous dit qu'elle souhaite rattraper les jours de l'année dernière. Alors, est-ce qu'elle se les rattrape les jours, elle doit aussi payer la fidya?
Alors, quand on parle de rattraper, c'est simplement, bien sûr, on parle des jours dans lesquels elle était indisposée. Puisque une femme indisposée, c'est-à-dire qui a ses règles, n'a pas le droit de jeûner. Donc elle ne peut pas jeûner les jours où elle est indisposée. Donc peut-être 5, 6, 7, parfois même plus qu'à 10 jours par mois où est-ce qu'elle ne jeûne pas. Donc y compris pendant le mois du Ramadan, il y a une dizaine de jours où elle ne va pas jeûner. Entre 5 et 10 jours, voilà. Et donc ces jours-là, elle doit les rattraper courant de l'année qui suit. Donc courant de l'année, elle rattrape normalement sans rien avoir à payer en fidya. Si elle le fait correctement courant de l'année, avant le Ramadan suivant.
Ah voilà, c'est ça.
Si par contre, elle laisse passer le Ramadan suivant sans raison valable, ça c'est pas ni grossesse, ni allaitement, ni maladie, ni rien qui l'empêche. Simplement elle a été négligente, elle n'a pas voulu rattraper. Eh bien pour une bonne partie des savants, eh bien elle doit la double peine, à la fois rattraper ses jours de jeûne et à la fois payer la fidya de 5 euros par jour. Donc l'équivalent d'un repas, 5 euros ou un repas à un pauvre. Pour chaque jour qu'elle a négligé et qu'elle n'a pas rattrapé courant de l'année suivant, le mois de Ramadan qu'elle n'a pas jeûné. Donc voilà concernant cette question qui
Bien.
Est très importante
et
pour les auditeurs.
Justement, si vous avez de l'argent à verser pour la fidya, vous pouvez le donner à l'association Umma Islamiyah dont le, Mohamed Zenati, le président, est avec nous. Voilà. On dit que, moi j'entends beaucoup d'associations qui disent que les gens donnent moins d'argent parce qu'il y a moins d'argent en, en France. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez ou pas?
Non, moi je pense pas. Je pense plus que c'est par rapport à la confiance.
Ah, vous croyez qu'il y a, il y a une crise de confiance des.
C'est ça, je
moi, j'entends toutes les associations se plaindre en disant, bah, finalement, on a vraiment du mal parce qu'il y a de plus en plus de pauvreté sur le terrain, on a de plus en plus de gens à nourrir et les dons sont plus rares.
C'est vrai que les dons se font rares. Après, c'est soit la confiance ou soit. Bon, c'est vrai que maintenant la vie elle est chère maintenant.
La crise est passée par là quand même. Hein.
Donc, voilà, il y a aussi ouais. ça et ouais. donc voilà, c'est vraiment c'est assez compliqué. C'est,
Donc il faut restaurer cette crise de confiance qu'il y a entre les donateurs et les associations. Vous parliez, vous disiez par exemple tout à l'heure, c'est un bon exemple parce que vous dites voilà quelqu'un qui nous offre un mouton, on arrive à suivre finalement ce qui devient son mouton.
Ouais, voilà, c'est ça.
Voilà, vous avez un devoir de transparence.
Exactement. Là, ça, c'est obligatoire.
Ouais.
Moi, vis-à-vis des donateurs et donatrices, donc, même pour ceux qui nous suivent à l'heure actuelle, donc, ils savent comment on fonctionne. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on fait même des lives en direct. Donc, comme ça, ils peuvent voir aussi ce qu'on fait.
Oui, au moins
donc,
les gens,
on
voilà.
On cuisine. Par exemple, si un donateur, il nous a donné un paquet de riz, bah, il va voir son paquet de riz en live. Il va voir qu'on a bien cuisiné son paquet de riz. Voilà, c'est pour mettre en confiance aussi.
Alors, vous acceptez être... aussi l'argent, les chèques. Vous avez un compte bancaire qui permet de.
Bah, justement, il y a le compte bancaire qui va être fait, c'est-à-dire demain déjà, parce qu'en fait, nous, on est, nous de base, on récoltait plus des denrées alimentaires, tout ce qui est pâtes, riz, lentilles.
D'accord.
Donc voilà, c'est vu que nous, c'est. L'association, elle a été créée moins d'un an déjà. Donc voilà, c'est nous, on commençait que par ça. Nous, c'est vraiment que ça.
Voilà, oui, effectivement.
C'est le basique.
Voilà,
ouais.
Le basique. Voilà,
d'un autre côté, c'est ça. Hein, moi, je veux dire, franchement, vous récoltez des denrées alimentaires que vous cuisinez, que vous distribuez.
Surtout la nourriture la plus délicieuse, c'est celle que l'on mange quand on a faim. Et même si c'est des pâtes ou que c'est du riz ou des lentilles, quand on a faim, c'est délicieux. Et donc, comme il s'agit de personnes nécessiteuses qui ont faim, donc elles doivent forcément apprécier ce genre de repas. Ouais. Bien sûr, ils ajoutent de la viande et d'autres voilà.
Ouais, exactement.
Alors, je rappelle à ceux qui nous écoutent que votre association donc fait des maraudes. Vous êtes sur le terrain, vous distribuez des repas dans plusieurs coins.
Ouais,
pour
voilà,
ceux qui vous écoutent, qui sont sensibles à votre action, qui voudraient vous aider, comment on fait, Mohamed?
Bah, c'est tout simple, hein, de nous contacter par la page Facebook Ouma Islamia, sinon sur Snap Ouma.islamia ou par mail. Et vous pouvez nous contacter à tout moment, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça.
Une dernière fois, voilà. Numéro de téléphone pour que les auditeurs vous appellent.
C'est 07 68 19 23 70.
Encore une fois.
07 68 19 23 70.
Merci Mohamed Zenati d'avoir été notre invité.
Merci à vous
de nous avoir suivis. Si vous
merci
avez encore
beaucoup.
Envie de plus d'Imam Abdelali Mamoun, vous allez sur YouTube et vous tapez Allo l'Imam. Voilà.
C'est ça.
Vous êtes d'accord avec ça, Imam
Abdelali? Pas de problème.
Et on vous retrouve.
En tout cas, je te souhaite un bon voyage. Apparemment, tu nous fais encore un joli voyage là. J'espère qu'en tout cas, ça va bien se passer pour toi.
Bien. Écoutez, merci. La prochaine fois, on vous emmène, puisque bientôt, nous allons aller planter des arbres en Indonésie.
Mashallah.
Avec une autre association qui s'appelle Life.
Donc,
avec
lui, pour faire les zakat et sadarat, il fait 10 000 kilomètres.
Voilà. Moi, je vais planter des arbres en Indonésie. Maître Serhan sera avec nous dans un instant. À la semaine prochaine, Imam Abdelali.
Inch'Allah. 10h, 11h, l'islam au présent, sur Beurre FM.